Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Ici, toutes les semaines, on a regardé pour vous Monday Night Raw, on analyse, on résume ça, on vous dit tout, ce qu'il faut en penser, ce qu'il ne faut pas en penser. Cette semaine, pour m'accompagner, l'incroyable Ralph. Comment ça va, Ralph? Il s'appelle Ralph, mais c'est Ralph, pardon.
Ça va incroyablement bien. Écoute, j'enchaîne juste après TLC. On est chaud, on est tout rouge. Et on passe sur Monday Night Raw. Ça va bien, toi, Ringside?
Écoute, ça va. J'ai connu mieux dans ma vie, mais on n'est pas là pour raconter nos vies de merde. On est là pour parler de catch.
On est parlé de formidable monde du catch.
C'est ça, exactement. Tous nos problèmes. Tous nos problèmes sont oubliés grâce à ça. Il se passe du lourd, du très lourd à Monday Night Raw, hein, parce que c'est au lendemain déjà de TLC. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Alors, vous êtes au courant de cette épidémie de méningite là, qui a fait des ravages dans le roster rouge, puisqu'on est débarrassé de Sister Abigail et Bray Wyatt. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bo Dallas sera absent encore quelques temps, hein, le pilier du mistourage. Et... le top guy, Roman Reigns, est absent.
Mais il a les méninges sensibles, le bel homme.
C'est vrai, avec son tarin en plastique. Donc voilà, il a été remplacé par Kurt Angle à TLC, le beau Roman. On a eu un match également entre AJ Styles et Finn Balor. Donc ça, c'était la petite surprise, la petite cerise sur le gâteau. Mais tout ça, c'est le passé. Au programme de ce soir... C'était le 25 octobre, c'était à Green Bay dans le Wisconsin. Hein,
C'était le 24, nous sommes le 25.
Nous sommes le 25? Ah ouais, c'était le 24. Green Bay, Wisconsin, c'était la ville de feu, Mr. Kennedy, souvenez-vous. Donc ce soir, Ken est monstrueux, Alicia Fox est la boss, Drew Gulak est la voix d'Enzo Amore. Ilias affronte Jason Jordan pour à peu près la 50e fois. Brock Lesnar nous parle de Jinder Mahal. Et le royaume de Kurt Angle est assiégé. On démarre le show par un résumé du main event de TLC qui est largement moins bien raconté que celui fait par Hank ce week-end et que vous pouvez découvrir sur notre chaîne YouTube.
Oui, c'est mieux.
Tu as participé également à cette merveilleuse analyse. Et le début de show, c'est Kurt Angle qui débarque. Il arrive au ring, il nous explique que voilà, un nouveau chapitre s'ouvre pour lui. La WWE, c'est un rêve devenu réalité, dream come true. Il peut enfin remonter sur le ring. Voilà, il a fait une performance, il a gagné le match hein, grâce à ses amis du Shield. Mais voilà, ça c'était hier. Ce soir, on va parler du Survivor Series. Le nouveau pay-per-view en prévision qui sera un affrontement du coup entre les deux brands, entre SmackDown et entre Raw, pardon. Comme l'année dernière, voilà. Hein, finalement, c'est parti pour être ça toutes les années tant qu'il y a la séparation des brands. Donc voilà, parlons Survivor Series et on a déjà l'affiche. C'est parti. Alexa Bliss affrontera Natalia, donc championne contre championne. Le champion intercontinental Le Miz affrontera Baron Corbin, le champion des États-Unis. Il y aura aussi le championnat tag team qui sera, du moins les champions tag team qui s'affronteront les uns les autres. Hein, les titres ne sont pas en jeu dans ces matchs-là, évidemment. Ambrose et Rollins donc face aux Usos et le main event Brock Lesnar contre Jinder Mahal, croyez-le ou non. Et en plus de ça, deux matchs à élimination. Classique du Survivor Series, un match pour les hommes, un match pour les femmes. Et Angle nous assure qu'il va s'occuper de tout pour que ce soit la victoire de Raw à Survivor Series. Là-dessus, Le Miz et Cesaro débarquent. Ils ne sont pas contents, ils ont perdu à TLC. Le Miz nous explique que Raw c'est quand même le show du Miz hein. Que Kurt Angle c'est un peu honteux ce qu'il a fait à TLC, il pense qu'il a sauvé le show mais tout ce qu'il a fait c'est s'incruster dans le main event, il voulait son dernier tour sous les projecteurs, hein, son dernier jour de gloire. Il demande la démission carrément de Kurt Angle et les trois hommes encerclent le general manager, hein, donc Le Miz d'un côté, Cesaro de l'autre, Sheamus dans le dernier angle. Là-dessus, évidemment, le Shield, enfin du moins ce qu'il en reste, débarque. Seth Rollins, Andy Ambrose. Donc le Miz continue au micro, il explique que le Shield sont des vendus, mais ils sont encore en sous-nombre ce soir. Donc il compte bien castagner les gentils, là, les méchants, qui sont encore à 3 contre 2. Mais Kurt Angle nous explique qu'il a encore un atout dans sa manche, et il va tout de suite booker un match entre Cesaro, le Miz, Rollins, Ambrose, et un invité surprise, pas moins que AJ Styles. Et oui, le phénomenal one de SmackDown est toujours dans les parages, et il sera en action ce soir aux côtés de Rollins et Ambrose. Donc il y a tout de suite un match qui s'enchaîne, un match qui va à 100 à l'heure, explosif. Personnellement, j'ai trouvé ça excellent. Ça va dans tous les sens et on a une victoire des gentils via un phénoménal forearm d'AJ Styles sur Cesaro. On va s'arrêter là, il y a encore des choses qui se passent derrière, mais c'était déjà assez long. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Raphaël ?
Oula, de tout ça.
Tout ça, allez.
Un très gros packaging. Eh bien, pour commencer, je trouve ces annonces pour Survivor Series a priori très déroutantes, parce que bon, des affrontements champion contre champion, pourquoi pas, mais on part quand même chez les filles sur deux championnes heel, chez les hommes, donc le Miz et Corbin, deux champions heel aussi. Il y aura juste le Shield versus les Uso qui est un peu plus clair, et puis bon, bah, Brock Lesnar contre Jinder Mahal, parce que personne hors Inde et encore ne veut voir gagner le Maharaja, je pense. Donc je sais pas trop comment ils vont nous booker ça, et puis d'un autre côté ça veut dire aussi qu'on part pour encore 4 semaines aucun de ces titres qui va être défendu. Ça commence à faire long pour le Miz qui a vraiment aucun rival. Ouais, on parle de Brock Lesnar qui est pas souvent là, mais au final avec toute cette histoire de le Shield qui revient, ça défend plus trop les ceintures, donc à voir ce que ça va donner. Et pour le match en lui-même, ouais, tu veux enchaîner peut-être dessus ton avis, oui.
Non, je t'en prie, vas-y, j'ai parlé assez longtemps.
Oui, non, bah après sur le match en lui-même, tu as bien décrit, hein, ça vaut le coup d'être vu, puisque c'était rapide, vitaminé, et tout le monde s'est fait plaisir, on sentait qu'on avait beaucoup de talent sur le ring. Après, bon, bah c'était pour ouvrir un peu un Raw suite à un pay-per-view, donc c'était pas le main event, il n'y avait pas d'engagement ni d'enjeu, mais ça... Ça faisait plaisir et on sent bien que là, tout le monde est au top niveau là, parmi les gens qui étaient sur le ring.
Exactement, hein. Il y a eu quelques interactions notamment entre AJ Styles et Cesaro, ça donnait envie de voir un affrontement entre les deux, parce que on avait vraiment du level, du gros level dans ce match-là. Moi je le conseille, hein, cet opener qui était vraiment explosif. On voit que c'est les potentiels main eventers qui sont là à nous faire l'opener du show. Mais on est à un niveau de catch qui est vraiment très très élevé, donc ça valait vraiment le coup d'œil, hein, rien que ce match là donc AJ Styles, hein, qui vient en haut, on va pas cracher dessus, on l'a pas souvent. Et donc tout ça, écoute, ça se goupille. Alors effectivement, hein, on a tout de suite l'affiche de Survivor Series qui nous est donnée. Ben voilà, on voit qu'ils avaient déjà tout prévu avant TLC. Donc on a des petites, ça nous met un petit peu en lumière certaines décisions à la vie de DLC, mais il va se passer encore beaucoup de choses, donc on va enchaîner parce que c'est pas fini en fait, hein. Donc on a la victoire des gentils, hein, qui sont en train de fêter leur victoire justement, et là il y a une musique qui retentit, c'est Kane, The Big Red Monster. Il débarque et il détruit AJ Styles, il détruit Dean Ambrose, il détruit Seth Rollins. Les méchants reviennent pour tabasser un peu les gentils, on fait le ménage dans le ring, il reste plus que Kane tout seul qui prend le micro. Après la pub, ça, hein, y a, donc, alors les gens qui étaient sur place, ils ont dû avoir un bon 10 minutes de Kane tout seul dans le ring.
Être content. Je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là.
Voilà, alors il nous explique qu'il a, quand il était absent, il a entendu parler d'un monstre parmi les hommes qui voulait de la compétition à Monday Night Raw. Et quand il est arrivé, il a découvert qu'un tas d'ordures appelé Braun Strowman, hein, c'était censé être un mec qui avait détruit Roman Reigns plusieurs fois, qui avait détruit Big Show dans une cage, etc., qui avait été même affronté Brock Lesnar. Et donc bah, ce tas d'ordures, il l'a envoyé à l'endroit où on envoie les tas d'ordures, c'est-à-dire à la benne. C'est ce qui s'est passé à TLC, hein. Ils ont mis Braun Strowman dans une benne à ordures. Il a été compressé, donc il n'est pas là cette semaine. Hein, parce qu'il a été compressé. Et quand il a affronté Strowman, il a vu de la peur dans ses yeux, au monstre parmi les hommes. Donc Kane et maintenant Strowman le sait aussi, et nous le savons aussi désormais, il n'y a aujourd'hui et à jamais qu'un monstre à Monday Night Raw, et c'est bien Kane. Et il explique qu'il veut de la compétition, ou alors, or else, la fameuse phrase de Braun Strowman. Et qui pour affronter, qui va se lever pour affronter l'indestructible Ken, l'instoppable Ken, ce monstre de puissance et de rapidité? Eh bien, c'est Finn Bálor, croyez-le ou non. Finn Bálor qui débarque, qui relève le défi. Donc là, il y a encore un match qui s'ensuit. Donc Bálor fait tout ce qu'il peut pour marquer le coup face à Kane, hein, et prendre le dessus. Il arrive à placer un peu son défilé final, Sling Blade, Shotgun Dropkick. Il part sur la troisième corde pour le coup de grâce, mais Kane le chope à la gorge et lui applique un Choke Slam. Alors là, Bálor est sonné. Kane l'attrape au sol, il le relève, deuxième Choke Slam, et ça suffit pas. Il le reprend, il le ressoulève, troisième Choke Slam, et là c'est tombé. Victoire de Kane, la stupeur générale. Le public ne s'attendait pas du tout à ça, et j'avoue que moi non plus. Donc voilà, retour fracassant de Kane à Monday Night Raw, qui vient de détruire Finn Bálor après avoir détruit Strowman. Qu'est-ce que tu penses de ce retour explosif de Kane?
Explosif et tonitruant, puisque je pense qu'on l'a pas vu booker aussi fort depuis l'époque où il avait battu trois fois l'Undertaker là, il y a quelques années. Là, ils le mettent très très haut. Je sais pas quel est le but final. On va voir tout ça dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que bon, ben il bat Finn Bálor. Moi, ça m'a pas tant étonné que ça, vu que, ben, comme tu disais, 5 minutes avant, en deux claques, il avait détruit les deux tiers du Shield et AJ Styles, donc d'un certain côté c'était logique qu'il continue à gagner. Je sais pas, est-ce que ça va être encore une étape suivante pour monter Braun Strowman très haut, mais en tout cas Kane fait à nouveau peur, est à nouveau menaçant. Je sais que c'est un personnage assez décrié parmi le monde de l'internet, parce que bon, Kane est loin d'être tout jeune et il est loin de nous avoir fait rêver ces dernières années, mais je, pour le moment, je crache pas dessus parce que ça reste un personnage de l'histoire du catch. C'est un monstre physique, il y a rien à redire là-dessus. Et puis il mérite une dernière, parce que je pense que c'est un dernier run, une dernière FUD à haut niveau. Donc pour le moment, ça me va sur ce passage-là. Après, c'est vrai qu'il apparaît très 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 fort. Qu'est-ce qui va se passer? On se le demande bien.
Ouais, moi je suis moins satisfait que toi, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a mis sur le cul là, cette défaite de Finn Bálor. Donc il fait quand même, Finn Bálor, il fait au pied levé un match fantastique avec AJ Styles. À la fin de TLC, le public est debout, en feu. On a réussi à avoir deux top babyface qui se sont construits tout seuls, hein, parce qu'il n'y avait pas de... C'est pas avec les intrigues qu'ils avaient mis derrière, que ce soit pour Styles qui était coincé à la ceinture US, et Bálor qui était coincé avec Bray Wyatt, qu'ils allaient s'en sortir pour se mettre en valeur, hein, sur les derniers mois. Donc on leur donne vite fait bien fait un match à faire à TLC, ils explosent la baraque. Vraiment à la fin du match, quand ils ont fait le tout suite des ça aussi c'est assez scandaleux que la WWE utilise à nouveau le tout suite et vendent en plus leur match sur une confrontation entre les deux anciens du Bullet Club, alors qu'ils ont viré Jimmy Jacob parce qu'il a fait une photo avec le Bullet Club il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est un peu un avis de faiblesse, je trouve, de la part de la WWE. C'est pas très classe, on va dire. Donc ils nous font ce match, on a enfin deux top babyface qu'ils ont tellement de mal à construire à la WWE. Les mecs se font tout seuls quoi en un match, et le lendemain ils se font détruire l'un comme l'autre par Kane qui a 70 ans et qui est là juste pour mettre over à la limite après Braun Strowman quoi. Je pense que son programme de base, ça devait être d'aller affronter Roman Reigns, et comme Reigns est malade, donc du coup je pense qu'ils le mettent face à Strowman. Je sais pas quel est l'intérêt de monter aussi fort Kane. Alors d'accord, oui, c'est quand même intéressant de monter Kane. D'accord, ça je veux bien comprendre. Mais alors il fallait pas mettre Finn Bálor en face. T'as un roster blindé de personnes. Je sais pas, Titus O'Neil et l'ami Apollo Crews. Ouais. Hein, il aurait affronté les deux, il aurait cassé les deux dans un handicap match. ça faisait l'affaire, tu vois.
Bah, c'est le côté, même s'il n'est pas arrivé en démon, Finn Balor, c'est le côté monstre et un peu obscur des deux personnages. Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Sur le long terme, si tu veux. Ils ont tellement de mal à construire des babyface que quand ils réussissent à en avoir, c'est vraiment super dommage, pour être poli, de tout gaspiller comme ça, juste pour monter une rivalité entre Kane et Braun Strowman. Parce que finalement, Braun Strowman, il va avoir sa revanche, il va le détruire, Kane, d'ici quelques semaines.
Oui, mais rien n'empêche Finn Balor d'avoir une revanche aussi, on verra.
Ah, mais il faut éviter de faire perdre comme ça des mecs. Parce que là, non seulement, alors Kane, ça veut dire qu'il est plus fort que Finn Balor, il est plus fort qu'AJ Styles. Et AJ Styles qui est censé être le top guy quand même de SmackDown, plus il a atomisé Rollins et Ambrose au passage, quoi. Donc c'est un peu chaud après pour avoir ces mecs là en top guy s'ils sont fait détruire par un Kane vieillissant, quoi. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée, et le fait d'utiliser le tout de suite sur TLC, ça c'est pas cool, messieurs de la WWE, hein, parce que il n'y a pas dans l'histoire, dans le kayfabe de la WWE, un club qui existe où il y a Finn Balor, AJ Styles dedans. Il y avait le club d'un côté avec AJ Styles et Anderson et Gallows, et il y avait des t-shirts Balor Club d'un autre côté, mais c'est pas le Bullet Club, c'est à la New Japan, à la Ring of Honor, c'est pas la WWE, donc on vend pas ces choses sur quelque chose de la concurrence, ça ne se fait pas quand on est la WWE.
Mais j'entends bien.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Enchaînons, parce qu'il y a encore du lourd. Alors, petit passage dans les vestiaires, Kurt Angle et Shane McMahon qui nous font un petit concours de beat, hein, pour savoir quelle est la meilleure bande. Et Shane O'Mac nous glisse qu'il a fait un petit hashtag Under Siege. Et c'est bien mystérieux, on en saura un peu plus tard. Under Siege, ça veut dire assiégé, hein, si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare. On va enchaîner avec une revanche de TLC, puisque Asuka affronte Emma pour la deuxième fois. Asuka a déjà battu Emma pour son premier match en pay-per-view, donc ce dimanche, et on a un peu le même type de match. C'est bien sa bataille sec, hein. Emma, elle est quand même costaud, elle est bookée assez fort sur ce match, mais évidemment c'est quand même la victoire d'Asuka sur soumission. Qu'est-ce que tu penses de ces débuts d'Asuka à Raw?
Moi, je suis plutôt convaincu, hein, je l'ai dit dans l'analyse de TLC. Ils ont choisi pour le moment une rivale qu'elle connaît déjà de NXT. C'est très bien que Emma soit bookée assez forte. C'est un choix de facilité, mais c'est un bon choix parce que ça aurait été dommage qu'on ne voit pas Asuka au lendemain de TLC. Il fallait garder un peu la découverte du personnage. En même temps, lui donner une nouvelle catcheuse à battre, il n'y a pas grand monde. Ou alors, elle aurait squatché Dana Brooke. Donc ça, c'est facile, c'est vite fait. On dit que Emma voulait une revanche, elle l'a eu, elle a perdu. On va pouvoir passer à autre chose la semaine prochaine. On a quand même eu Asuka en programme ce soir et ça a été du correct. Donc, on commence doucement, tranquillement.
Ouais, effectivement, moi je suis assez convaincu aussi par l'arrivée d'Asuka. Alors il y a beaucoup de gens qui grincent des dents un peu sur le fait que son premier patch n'ait pas été un squash, que c'était aussi bataillé entre les deux, mais je trouve que du coup ça remonte un peu Emma dans le roster, qui en avait bien besoin, et Asuka, ça fonctionne, j'ai l'impression, auprès du public, hein, les gens avaient l'air peut-être plutôt satisfaits, hein, on voit que le personnage fonctionne bien. Voilà, ils peuvent encore louper Asuka, mais il va falloir s'appliquer pour la louper. Là, il suffit de lui faire enchaîner les matchs et les victoires, et elle est vraiment fun dans le ring. Ouais.
Voilà. C'est pas Nakamura, quoi.
Hein. C'est ce que j'allais dire. On a beaucoup comparé un peu ça, un peu partout, hein, sur le net, les analystes un peu professionnels. Comparer ça un peu au début de Nakamura, mais la différence, c'est qu'elle fait des bons matchs et que elle a pas une espèce de routine un peu à la John Cena qu'à Nakamura en ce moment, et ses matchs sont beaucoup plus intéressants, c'est beaucoup plus fun, donc voilà, il suffit de lui faire gagner les matchs, puis ça ira. Alors on reste chez les filles, puisque c'est Alexa Bliss qui débarque au ring. Donc à TLC, elle a gagné contre Mickie James. Donc elle nous explique qu'elle a renvoyé Mickie James dans le passé. Et qu'à Survivor Series, elle va démembrer la folle au chat Natalia. Et elle est énervée parce qu'elle a eu peu de considération du public. Hein. Elle nous explique qu'elle a vaincu, c'était quoi, 6 fois championne, elle était Mickie James. Ouais. Mais qu'elle a eu aucun applaudissement. Elle a fait la performance de sa carrière à TLC. Et c'est une bataille de regard de 10 minutes entre Finn Balor et AJ Styles qui reçoit des chants physisosome. Donc, elle va apprendre à ce public un peu d'idiot hein, de demeurer, qu'elle considère comme un peu gogol. Elle va leur apprendre le chant « You deserve it ». Et là, Mickie James débarque. La surprise générale, je ne pensais pas qu'on la reverrait après son discours où elle disait qu'on la reverrait. Je pensais qu'elle allait disparaître. Mais non, elle est bien là. Elle vient, elle attaque tout de suite Alexa Bliss et elle la plante dans le ring avec un violent DDT. Et elle lui dit, bah oui, effectivement, tu le mérites. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit passage où ta petite favorite Little Miss Bliss est malmenée par la belle Mickie ? Ça a été
Oui, ça a été. Elle a été très très bien au micro là, Alexa Bliss. J'ai trouvé qu'elle est, toujours. Non, elle est pas toujours excellente parce qu'elle a fait des promos de merde à l'époque là contre Bayley. Mais là, quand il n'y a pas d'artifice, de cadeaux, de faux jeux, qu'elle a juste le micro, elle sait vraiment bien réagir face à une foule. C'est pas gagné. Hein, un petit gabarit de 20 et quelques années qui gère 10 000 personnes. Non, c'est bien. Elle s'est foutue de la gueule des smarts et du public. Moi, j'avoue que j'étais effectivement un peu surpris de revoir Mickie James. C'est surtout que j'avais un peu l'impression que suite à leur bon match de TLC, c'était bon, quoi. Mickie James, on passe à autre chose. Elles m'ont convaincu à TLC. C'est un joli match, donc pourquoi pas un autre. Mais ça va faire un peu longuer comme FUD. Enfin, en plus qu'il y a cette histoire de guerre de brand qui va durer encore 4 semaines, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais Alexa Bliss reste une très bonne championne, je trouve. Qu'en penses-tu, toi, Ringside ?
Écoute, moi je suis toujours convaincu par Alexa Bliss, effectivement. C'est quand même une catcheuse, une superstar qui en impose quand elle est dans le ring, effectivement, comme tu disais, face au public. Elle s'est jouée magnifiquement avec le public. Cette rivalité là qui tournait un petit peu sur le côté âgé de Mickie James, c'était pas très subtil, mais au final c'était plutôt efficace. Le match était bon à TLC. Voilà, moi je suis curieux de voir la suite. Alors, je suis pas plus emballé que ça par un match contre Natalia, mais c'est plutôt parce que Natalia m'intéresse pas vraiment.
Donc je serais pour Alexa Bliss à fond.
C'est ça, exactement. On va être à fond derrière et on sous-estime peut-être la capacité d'Alexa Bliss à ramener du pognon. Visiblement, ça, ils en ont parlé plusieurs fois. Elle fonctionne vraiment bien auprès du public. C'est un draw, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'elle met des gens dans les sièges. Il y a de l'audience quand elle est là. Donc, je pense qu'elle est installée pour un bon moment. Et puis, tant qu'elle fait des matchs aussi bons que ce qu'elle a fait à TLC, il n'y a pas trop de raison de se plaindre. C'est un peu dommage pour le reste du roster où il y a vraiment des filles de talent. On va revenir sur elle un peu plus tard. Donc, ça, c'est ça qui est un peu dommage. Mais il faudrait... Il y a du boulot à faire à SmackDown, donc il y a un petit transfert de talent à SmackDown, ce ne serait pas non plus une idée idiote. Non, moi je suis plutôt convaincu. Bon, on reste un peu dans le flou pour la suite. Hein. Est-ce qu'on va avoir la suite de la rivalité avec Mickie James qui commence à m'intéresser. Voilà, Mickie James, j'étais pas trop chaud par son retour, mais elle a fait une belle performance. Donc voilà, restons optimistes. On va avancer toujours chez les filles. Banks et Bayley, Sasha Banks et Bayley sont dans les coulisses avec Kurt Angle. Elles discutent stratégie pour Survivor Series. On va essayer de décider qui est la capitaine, mais c'est là que Alicia Fox débarque et elle revendique sa place de capitaine parce que ça fait une paire d'années qu'elle est dans le roster. Donc Angle essaie de calmer tout le monde. Il dit écoutez, tout ça va se décider à la manière de Raw, c'est-à-dire par un triple threat, une triple frite. Par un combat de pierre-ciseau-papier, hein, comme veut Alicia Fox, hein, qui a l'air un petit peu à côté de ses pompes. Donc, on va avoir ce soir un triple threat qui oppose donc Alicia Fox, forcément Bayley et Sasha Banks. Et Kurt Angle mentionne quand même à Alicia Fox de faire attention hein, parce qu'il a regardé son match dans le kick-off à TLC et il lui rappelle que les tombées ne sont valables que dans le ring. Hein. Parce que je ne sais pas si tu avais vu le kick-off de TLC. Mais elle a tenté à tomber à l'extérieur du ring quand même sur Sasha Banks. Et les commentateurs, à partir de là, ils étaient morts de rire. Ils ont eu bien du mal à finir les commentaires du match. Donc elle s'est un peu ridiculisée sur ce coup-là. Qu'est-ce que tu dirais si on allait tout de suite au match ?
Ah bah oui, enchaînons. On veut savoir.
Voilà, trop de suspense. C'est un bien drôle de match, hein, ça se fout sur la gueule dans tous les sens. Alicia Fox a pété un câble. À un moment donné, elle va sortir du ring pour aller taper la cloche au sens propre, hein, pas au figuré. Donc elle veut arrêter le match. Booker T est désespéré. Mais le match continue. Ça continue à se foutre dans la gueule dans tous les sens. On a bien du mal à sortir un bon match d'Alicia Fox, hein, quand même. On voit que les deux autres elles prennent des pincettes, hein, pour pas se blesser avec elle. Et après un petit gloubi-boulga, y a Alicia Fox qu'on voit Bailey sur Sasha Banks. Elle a fait au préalable un Bailey to Bailey par surprise sur Bailey. Et donc après les deux se télescopent et Alicia Fox fait le tomber sur Bailey. Elle va fêter sa victoire avec les Green Bay Packers qui sont au bord du ring. Ce sera elle la capitaine de la team Raw. Et elle va sûrement avoir une soirée chargée avec toute l'équipe de foot. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce push d'Alicia Fox ?
Ah, j'étais très 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 loin de le réclamer. Vois-tu, le personnage d'Alicia Fox, moi je crois que c'est celui qui m'insupporte le plus dans la division féminine depuis des années. Je ne comprends pas qu'elle soit encore là. Son rôle de d'espèce de taré, là, elle nous l'a déjà joué il y a 3-4 ans et puis elle avait arrêté et puis là elle reprend. Je trouve qu'elle est, bon, elle est mauvaise dans le ring, mais je trouve qu'elle est très très mauvaise dans son acting. Enfin, tout sonne faux. On dirait vraiment que sur le ring, là, elle a fait 5 minutes de match normal et puis ensuite on a l'impression que quelqu'un lui a appuyé sur le bouton, lui a dit dans l'oreillette, allez, maintenant crazy mode. Et là, elle se met à sortir la cloche. C'était nul, c'était pas drôle. Je sais pas pourquoi elle sonnait la cloche. Le finisher était pourri. Enfin, elle a pris, elle l'a envoyé contre Sasha Banks. Bon, mais ça fait jamais gagner un tombé, ça. Qu'est-ce qu'elle a, Bailey? Elle était autant le coup de lui piquer le Bailey to Bailey était vaguement rigolo, mais non, là, je comprends pas ce push. Je sais pas trop ce que ça va donner. En même temps, elle va être chef d'équipe, mais dans l'équipe, on imagine très bien qu'il y aura au moins Bailey, Sasha Banks et Asuka, donc elle va quand même être un peu la force faible, le maillon faible. Non, je sais pas. Si c'est juste pour peut-être qu'elle va être la prochaine sur la liste en fait contre Asuka, histoire que Asuka monte progressivement avant d'arriver à un title shot. Et si c'est ça, pourquoi pas. Mais ça ferait chier de voir Alicia Fox en pay-per-view. Je suis pas un fan, quoi.
En tout cas, ça a bien fait marrer Hank, hein, qui est sur le chat en ce moment. J'ai envie de dire chacun son humour, hein, quelque part, mais oui, ce personnage de folle là, d'Alicia Fox, on le connaît, mais c'est sûr que c'est vraiment triste de voir Sasha Banks et Bailey essayer de porter à bout de bras Alicia Fox, qui est vraiment dans le ring, elle a vraiment pas grand chose, hein, elle a sa prise, son souplesse avec Ponté.
Ouais.
Et puis c'est à peu près tout, hein. 6 autres jambes et puis le reste c'est vraiment très très limité, donc quand on lui donne un match qui dure un peu plus de 5 minutes, c'est délicat. Et surtout j'ai bien l'impression qu'elles ont peur de se blesser avec elle ou de la blesser.
Bailey et Sasha Banks, j'espère que les bookers ont été clairs avec elle et lui auront dit, bon écoutez, on n'a pas trop de plans pour vous là d'ici 2018, vous faites des petits trucs par-ci par-là puis on va trouver mieux ensuite, parce que là sinon elles doivent se faire chier.
Ouais, ça doit devenir délicat, hein. Mais c'est comme ça, hein, Monday Night Raw. Hein. Des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. Il y en a un qui est en haut, c'est la rockstar de Monday Night Raw, Elias, qui vient nous chanter une chanson, hein, comme toutes les semaines, une chanson pour se foutre de la gueule de Green Bay. Mais le son est saboté, sa guitare sèche ne fonctionne pas. Qui est cet ingénieur du son qui a décidé de saboter l'émission d'Elias, la chanson d'Elias? C'est Jason Jordan, évidemment, hein, ils se sont affrontés à TLC dans un match surprise. Jason Jordan avait passé sa soirée à jeter des légumes sur le pauvre Elias qui essaie de chanter sa chanson. Et donc, on a un match, hein, c'est le, je sais pas, le 15e ou 16e affrontement entre Jason Jordan et Ilias à peu près. Donc, c'est toujours très disputé, hein, les deux sont bien costauds. On va s'exporter à l'extérieur du ring, et là, Jason Jordan va s'amuser à écraser Ilias un peu partout, sur les barricades, dans le poteau, corps sur les barricades. Mais Ilias va finir par exploser sa guitare sur la tête de Jason Jordan, qui était bien parti pour faire un spear destructeur là, qui aurait défoncé sûrement la Timekeeper Arena, mais il est stoppé net par ce coup de guitare, pardon. Disqualification d'Ilias. Les médecins débarquent même, hein, pour s'occuper de Jason Jordan qui a écopé d'un énorme hématome sur le bras. Voilà la rivalité qui continue entre Ilias et Jason Jordan. Est-ce que tu es convaincu par tout ça, toi?
Ouf, vaste question. Qu'est-ce qu'on en pense? On a eu un peu la même discussion avec Hank sur TLC. Moi, je suis pas. Ça me gêne pas. C'est le genre de truc, c'est de la mid-card. Jason Jordan, on s'attendait à beaucoup de choses et on savait pas trop à quoi s'attendre après ces histoires de fils de Kurt Angle. Pour le moment, il capitalise pas trop là-dessus, il nous saoule pas trop là-dessus, donc c'est bon. Moi, j'aime beaucoup le personnage d'Ilias dans tout ce qui est gimmick, là, sur son interaction avec le public. Pareil, c'est comme Alexa Bliss, il sait se faire huer, il sait se faire détester. Et dans le ring, c'est assez violent. J'ai bien aimé le pétage de guitare. Bon, c'était le seul moment assez marquant du match. Après, ça reste anecdotique et ça reste pas du grand catch. Mais bon, on a souvent vu des moments qui comblaient 3 heures de show à Raw, beaucoup moins intéressant. Donc, ça me dérange pas en soi.
Ouais. Ah, ouais, là ça fonctionne ouf. Bien Ilias, quoi, c'est surtout ça,
ouais, son personnage.
Jason Jordan, il est c'est délicat pour lui, mais bon, il se défend entre les cordes. Je suis pas sûr que c'est une rivalité qui va servir beaucoup à Jason Jordan. Les passages où Ilias joue de la guitare, etc., sont plus distrayants que les matchs, je trouve, mais ça peut amener à quelque chose de sympa quand même, mais c'est délicat pour Jason Jordan. Hein. Ça va être chaud d'avoir quelque chose qui nous prenne un peu aux tripes avec lui. Mais Ilias, par contre, qu'est-ce qui maîtrise bien le public? Quelle performance à chaque fois? Moi, je suis.
Ah oui, oui.
Je suis vraiment, impressionné par ce qu'il arrive à sortir vraiment dans l'acting et dans le jeu avec le public. C'est à chaque fois frandard, quoi.
On dit beaucoup qu'il ressemble physiquement à Damien Sandow, mais il a un peu le même style, hein, de regarder le public, de leur parler individuellement, de leur balancer des vannes. Non, il est bon, il est bon.
Ouais.
Il est bon. Mais pas exceptionnel dans le ring, mais il a un personnage, il est bon, il peut. Effectivement, je vois qu'on nous dit que ben, c'est notre ami Hank qui nous dit que si Baron Corbin peut être champion, Ilias peut l'être. Oui, tout à fait. Ilias pourrait faire un champion des États-Unis sans problème.
C'est ça, un petit peu de temps, il faut lui laisser un petit peu de temps. Et puis voilà, en plus, il a une guitare, donc il peut assommer ses ennemis à tout moment, tricher et gagner. Pas besoin d'être hyper performant dans le ring. Surtout que je pense qu'il en a encore quand même sous la pédale. Ce bon vieux.
Il a fait des bons matchs.
Je pense qu'on lui demande aussi de pas en faire trop parce qu'il joue vraiment le méchant un peu fourbe, mais il y a du potentiel quand même avec lui, mine de rien, faut pas le sous-estimer. Allez, avançons. Gros segment, Brock Lesnar et Paul Heyman qui débarquent au ring. Les classiques à annonce de Paul Heyman, hein, qui prend le micro, qui parle pour Brock Lesnar pendant que Brock Lesnar sautille, comme ça, comme d'habitude. Donc voilà, qui a lancé un défi à Brock Lesnar? Eh bien, c'est Jinder Mahal, le champion, hein, de SmackDown. Alors, Paul Heyman nous explique que, bon, d'habitude, quand il y a un adversaire, il chante un peu les louanges de l'adversaire, hein, que ce soit Samoa Joe, que ce soit Braun Strowman.
Il fait vendre les sièges.
Voilà, exactement. Il va pas se foutre de la gueule tout le temps des adversaires de Brock Lesnar, il les prend au sérieux, etc., même si Brock Lesnar, c'est quand même le plus costaud. Mais alors là, Jinder Mahal, il va avoir le droit de se foutre de sa gueule, hein, parce que c'est vraiment une blague, tout simplement. Hein, voilà, Jinder Mahal, c'est une blague, personne ne le prend au sérieux. Ça va être vite plié tout ça. Les Singh Brothers, ils font pitié. Le Maharaja, ça fait pitié. Donc voilà, il n'y a pas de. Mais y a, il n'est pas non plus là pour défendre les couleurs de Monday Night Raw. Il n'y a pas de bagarre de brand défendue par Brock Lesnar. Parce que la brand suprême, de toute façon, c'est celle qui peut se revendiquer d'avoir Brock Lesnar, évidemment. Donc voilà, c'est Monday Night Raw, hein, la plus belle des brands. Hein. Nous, on le sait, hein, évidemment. Et puis attention.
La plus bête des brands, c'est surtout celle qui a Ringside et Raphaël comme commentateur.
Ça, c'est vrai, mais bon, je n'aime pas trop me jeter des fleurs. Mais,
vas-y, je te les envoie.
C'est vrai. Et donc, attention, parce que la dernière fois que Lesnar a affronté un athlète de SmackDown, souvenez-vous, c'était l'ami The Viper, Randy Orton. Failli oublier son nom, hein, malgré tout mon talent. Souvenez-vous, ça a été sanglant, puisque Brock Lesnar a violé toutes les règles de la PG era, hein, de l'ère pour les enfants, j'ai envie de dire, l'ère tout public. Donc, il faut quand même qu'il fasse attention de Jinder Mahal. Donc, voilà un Brock Lesnar bien sûr de lui. Paul Heyman bien sûr de son poulain. Est-ce que ça ne nous annonce pas une victoire de Jinder Mahal avant une tournée en Inde?
Oh, putain, non, 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 non. C'est le seul angle un peu instructif de la promo, c'est que effectivement il y a peut-être un péché d'orgueil un peu de Lesnar, mais sinon non, c'était même pas une bonne promo de Paul Heyman, parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, d'habitude Heyman il sort toujours des promos où tu dis ah, putain t'es là, t'écoutes ça, tu dis ah, mais oui, mais il trouve l'angle, il trouve l'attaque, il trouve le truc dans le passé, mais là bon, bah ils disent que tout le monde sait depuis 6 mois quoi, que ça fait plus de 6 mois qu'on a Jinder Mahal champion, mais il y a même pas un an on n'y aurait jamais cru, ça fait chier tout le monde, ça dure hyper longtemps, ils arrivent pas à trouver où ils veulent pas booker un mec pour le battre. On n'arrête pas de nous sortir cette excuse de c'est le marché indien, mais bon, merde, au bout d'un moment, marché indien, il va pas juste. Enfin, les Indiens sont pas aussi cons qu'ils regardent le 4 juste parce qu'il y a un Indien qui est champion, alors qu'en plus, c'est le méchant suprême. Enfin, non, personne comprend pourquoi Jinder Mahal est là, Paul Heyman non plus. Donc, au passage, il fait comme il fait souvent, il brise un peu avec le kayfabe, hein, il dit bien que Jinder Mahal, c'est une grosse merde en gros, alors que bon, bah, sur le ring il a quand même battu Orton, Nakamura, bon il se débrouille d'après ce qu'on nous raconte, mais non, bah non, on n'a pas trop envie de voir ce match. Et si ce match a lieu, là pour le coup il faut que ça dure. Bon, de toute façon avec Lesnar on sait que vu ses contrats ça va pas durer très longtemps, mais il faut pas que ça dure très longtemps, et puis s'il vous plaît, surtout il faut pas que Lesnar se retourne pour donner un coup aux Singh Brothers et qu'ils prennent un petit paquet ou un colosse, là, non, il faut faire gagner Lesnar, merde.
Victoire sur petit paquet, c'est normal. Je sais pas si Brock Lesnar acceptera de se coucher pour Jinder Mahal.
Non, bah, j'espère bien qu'il...
C'est compliqué, quand même.
Pour le coup, j'espère au moins qu'il va pouvoir gueuler là-dessus. Hein. Mais bon, est-ce que t'as envie de voir ce match?
J'en ai rien à foutre, alors là. Ouais. L'intérêt, c'est que ce sera court. Alors, ça peut être aussi un truc comme il avait fait contre le New Day, à une époque là, donc il va taper les trois quoi.
Ouais,
tout le monde
ouais.
À Suplex City, ça peut être sympa. Ouais, mais ça n'a aucun intérêt.
Non, bah ça grille. Le seul truc qu'on pourrait imaginer, parce qu'on, j'ai pas vu encore SmackDown, mais on sent qu'on part envers une feud de Jinder Mahal avec AJ Styles. Oui, le seul intérêt, ça serait de faire redescendre un peu d'un cran Jinder Mahal. Bon, il a pris branlé contre Lesnar et ensuite il va perdre son titre. Dans la foulée parce qu'il a été énervé, mais sinon, oui, non, c'est griller une apparition de Lesnar. Il fait trois matchs par an, Lesnar, c'est toujours contre des gros performeurs, et là, ça va être contre Jinder Mahal. Bon, ben, au moins, j'espère que ce mec se rend compte de la chance qu'il a.
Ouais, c'est satané projet Jinder Mahal. Bon, enchaînons, parce que c'est pas tout ça, mais Charlie Caruso est là ce soir. Et elle reçoit Kalisto. Elle bien quand elle danse la lucha danse Charlie Caruso.
Ah, elle est bien tout le temps.
Ouais. Kalisto donc aura fait jouer sa clause de rematch et il affrontera Enzo Amore à 205 Live. Et puis on danse avec les copains et avec Charlie. C'était très bien. Un moment très sympa. Et donc ce soir on a un match Enzo qui arrive avec toute sa bande. Donc il y a Taivari, Toninis, Noam Dar et Drogulak. Drogulak qui va parler ce soir à la place d'Enzo, parce que Enzo a perdu sa voix, il ne peut pas parler. Donc c'est Drogulak qui fera le speech habituel de Enzo, hein, qui se termine sur Soft et compagnie. Là. How you doing? Et donc après on a un match, donc les gentils, j'ai pas noté les gentils et il y en a un paquet, on a qui? Grand Métallique, Kalisto. Ouais.
Et ben on a Ridzwan et Cédric Alexander, c'est ça?
C'est ça, ça fait le compte, il en manque un.
Il doit nous manquer, comment il s'appelle, Mustapha Ali, non?
Et Mustapha Ali.
Il y était, oui.
On va dire lui ou un autre.
Allez, pas bien grave. Il y était, sinon dites-nous dans le chat qui y était.
Voilà, si vous avez l'info. De toute façon, tout se passe pendant la pub, mais c'est en fait ce qui se passe, c'est que Enzo Amore fait tout pour ne pas participer au match. Exactement, il veut pas rentrer dans le ring. Mais après la pub, il y a tous ses équipiers qui sont KO, donc il est obligé de faire le tag. Donc là, il va affronter Kalisto. Il est sauvé une fois par ses compères, hein, parce qu'il est en train de se prendre à tomber, il a l'air d'être KO. Il réussit à placer son DDG, hein, son DDT de la troisième corde, mais le tombé est cassé par les gentils. À partir de là, il y a un festival de dive dans tous les sens. Là, on voit qu'on est chez les cruisers, c'est super. Et ça se termine par une Solida del Sol de Kalisto sur Enzo, qui est toujours l'homme légal. 1, 2, 3, victoire de Kalisto. Voilà, victoire de Kalisto. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus?
Non, c'est très rapide, on continue. Toutes ces histoires de cruiser, comment il faut dire ce qui est. C'est vrai que depuis qu'Enzo est là, c'est plus intéressant. Mm. Bon, moi, j'aimais bien hein, ce court passage de tout le monde contre Enzo Amore, mais ça pouvait pas tenir. Du coup, il devient chef d'une stable heel. Ma foi, ça lui va plutôt bien. Et ça va assez bien à tout le monde, donc ça s'écrit.
Drogulak est pas mal hein, quand il a le micro.
Oui, Drogulak est pas mal. On sent qu'il y a du talent niveau entre les cordes et aussi niveau gimmick, puisque c'est ça qu'on reprochait un peu au cruiser. Alors peut-être que ça va venir petit à petit.
C'est ça. Faut voir ce qu'ils arriveront à faire. Bon, on a quand même un roster qui est pas en béton armé. Hein. T'as Drogulak, il a l'air de maîtriser le micro. Grande Métallique, visiblement, il y a quelque chose à faire. Il arrive à impressionner le public là, avec toutes ces. Il est costaud de toute façon, hein, Grande Métallique. Il marche sur les cordes, etc. Là, c'est toujours spectaculaire. Mais le reste, ils sont un peu interchangeables. Donc là, dans l'immédiat, s'il n'y a pas une injection de mec un peu plus charismatique, un peu plus. Charismatique surtout, hein, des mecs qui ramènent un peu de la plus-value.
On n'est plus Neville et Austin Harris, là, clairement.
C'est ça, exactement. Donc, il va falloir qu'ils trouvent une manière de, sans punir les catcheurs, de les faire venir à 205 Live. Et voilà, moi, je vois toujours Gargano, hein, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, c'est le show de Enzo. Donc voilà, hein, de toute façon, la suite, c'est à 205 Live. Mais en tout cas, le match était pas mal. Hein. Ce festival de dive, c'était un peu plus spectaculaire que d'habitude. Les gens sont un peu plus dedans. Donc voilà, Enzo il est en train de faire le job. Même quand tu parles pas, il est charismatique, c'est super. Donc voilà, toujours rien à dire moi, sur ce passage d'Enzo chez les Cruisers. Porte bien la ceinture. Hein. Je vous rappelle qu'il a récupéré sa ceinture, hein, Enzo Amore. J'ai peut-être pas été clair quand j'ai le résumé. Bon, on va passer aux choses sérieuses puisque c'est le main event.
Et oui,
c'est Kurt Angle qui débarque au ring. Il va nous raconter un petit peu ses plans pour Survivor Series. Hein, on ne sait pas trop en fait ce qu'il venait faire là. Il est interrompu.
Il veut normalement, il est là pour annoncer les 5 mecs de son équipe, je crois.
Ah d'accord, ok.
C'est ça. Hein.
C'est ça, c'est possible.
C'est important.
C'est vrai. On allait avoir les 5 personnes qui allaient faire l'équipe de Raw. Et non. Puisque une musique retentit, Shane McMahon débarque, c'est le commissioner hein, de SmackDown, hein, il n'est pas GM. Hein. Il débarque au ring. Alors, Angle est un peu perplexe. Shane O'Mac vient soupçonner et il a une chose à dire: Under Siege, assiégé. Et là, il y a tout le roster de SmackDown quasiment qui débarque depuis les gradins. Ils viennent faire le tour, ils encerclent Kurt Angle. Kurt Angle est pétrifié, il ne peut que battre en retraite. Shane O'Mac est toujours au milieu du ring. Et là, il se tourne un peu vers ses hommes et il leur dit « Get him ! Allez me les choper !» Et c'est parti pour un pugilat dans les règles, dans les coulisses. Tout le roster de SmackDown se précipite dans les coulisses, on dirait des supporters de foot déchaînés. Ça y va, ça cassène tout le monde. On tombe d'abord sur la Titus Worldwide, hein, Titus O'Neil et Apollo fucking Crews, ils se font défoncer, on défonce tout le monde, même les techniciens, on va presque casser des télés tellement ils sont énervés. Même les filles, hein, elles se tapent dessus. Voilà, on va attaquer dans les vestiaires. Finn Balor. Il y a aussi un moment sympa où comment il s'appelle, Chad Gable se jette sur Jason Jordan. Ça, c'est sympa. Les deux anciens coéquipiers. Donc vraiment, Raw, ils se font défoncer. Même le Shield qui essaie d'attaquer par surprise depuis les hauteurs, Ambrose et Rollins se font défoncer. Voilà.
Donc notons que dans cette équipe de bleu, oui, il y a à peu près tout le monde. Hein. On retrouve à la fois Bobby Roode et Dolph Ziggler, Baron Corbin, Nakamura, AJ Styles, Becky Lynch, Carmella, Natalia, enfin tous les gros noms, le New Day, les Usos, je sais plus.
Non, les Usos sont pas là. Il manque les Usos, non. Il manque Jinder Mahal.
Et il y a pas
la Randy Orton ne s'est pas déplacé.
Il y a pas la Fashion Police quand même.
Il y a pas la Fashion Popo. Non, c'est vrai. Mais bon, ça fait déjà un paquet de monde. Hein. Oui. Je peux vous dire que quand vous avez Biggie qui vous tombe dessus, hein, avec tous ses potes, eh ben, on n'est pas bien. Donc voilà, donc une fois qu'ils ont complètement détruit le vestiaire, on revient sur le ring avec Shane O'Mac. On ramène Kurt Angle au ring, hein, on le traîne jusqu'au ring. Et là, Shane O'Mac, il explique à Angle, hein, bah, Survivor Series, tu ramènes ta médaille olympique et ce qui reste de ton roster, et on finira ce qu'on a commencé ce soir. Un main event extrêmement violent. La guerre est déclarée entre Raw et SmackDown. Est-ce que toi, ça t'a perturbé toute cette violence ou est-ce que ça t'a diverti?
Alors, moi, ça m'a hyper dérangé. J'ai trouvé ça. Je comprends pas, en fait. C'est, pour moi, c'était. Alors, ça va faire parler. C'est un gros moment de l'année. C'est polémique, mais. Mais waouh, putain, c'était n'importe quoi, quoi. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a ce concept qu'à partir du moment où un show Raw contre SmackDown, c'est visiblement impossible de rester dans l'esprit sportif. Hein. Il faut que tout le monde veuille faire son concours de beat et prouver qu'il est le meilleur, alors qu'au final, il n'y a rien à gagner derrière. Donc le fait que tous les mecs de SmackDown deviennent tous les mecs et les filles, hein, deviennent amis entre eux, puisque comme tu l'as dit, on a vu comme je l'ai dit aussi, on a vu Bobby Roode et Dolph Ziggler, hein, exemple typique, qui tapaient dans le même sens. Donc là c'était un heel turn généralisé incompréhensible quand tu vois que des mecs comme le New Day ou Chad Gable s'amusent de défoncer la gueule d'un petit ingé son qui faisait 25 kilos. C'était lamentable. Shane McMahon, ouais, c'est le pire heel que j'ai jamais vu, quoi. Le mec, il arrive, Kurt Angle a rien demandé, il n'a rien provoqué, il était plutôt Kurt Angle, c'est vraiment le mec gentil, hein, depuis le début. Ok, on va faire un petit show, ça va être sympa, les uns contre les autres, et l'autre il arrive, attrapez-le-moi. Moi, ça m'a rappelé quand il lui dit get him, là ça m'a... Ma génération comprendra, ça me rappelle, comment il s'appelle, Scar dans Le Roi Lion, qui dit à ses hyènes d'aller chercher Simba là, quand il est tout petit. Donc là, t'avais le troupeau d'hyènes qui attaquait tout le monde. C'était malsain. Pour moi, je sais pas s'il y a des gens qui ont kiffé, pour moi, c'était malsain du début à la fin. Et pour moi, c'est un heel turn généralisé. J'ai pas encore vu SmackDown. Je pense qu'on va partir sur une invasion inverse, mais pour moi, ça va être incompréhensible. Parce que là, pour moi, je peux pas du tout popper... Pour Shane McMahon ou pour SmackDown, et je comprends pas quelle était la réaction voulue pour le public, en fait, puisque le public qui était dans la salle, ils étaient de Raw, donc tu pars du principe qu'ils sont plutôt pour Raw, donc est-ce qu'ils devaient être pas contents de ce qui se passe, mais en même temps tu vois quand même quasiment tous les employés de la WWE se mettre sur la gueule, donc c'est un petit côté t'es témoin de ça. On n'a pas compris ce qu'il fallait en penser, et moi j'aime pas, j'ai pas aimé ce passage, je sais pas toi, mais un peu gêné.
Ouais, moi je suis un peu du même avis que toi. J'irais pas jusqu'à dire que j'ai pas aimé, mais je trouve effectivement c'est quand même limite parce qu'on est vraiment sur des images de un peu de violence façon stade de foot. Moi je regarde pas trop le catch pour voir ça, mais bon, ça reste
Ouais.
percutant. Au moins le pay-per-view est monté. Il y a quand même une efficacité qui se dégage du truc. Je pense qu'ils vont rattraper le coup à SmackDown. Il va y avoir le contre-coup de la part de Raw.
Oui, forcément, mais bon, ça reste eux qui ont commencé quand même là, hein.
Ah ouais, bah clairement. Mais alors ça j'aime bien le fait que Shane McMahon ait tout prévu dans sa tête. Déjà, il a un coup d'avance. Il n'a pas envie de perdre le Survivor Series. Parce que les McMahon, c'est des tarés, en fait.
Ouais,
Donc,
oui, mais là, oui.
on continue un peu sur ce côté que Shane McMahon, il va pas trop bien dans sa tête, et que c'est on est dans une famille de psychopathes. Et voilà, du coup, on va pas être à Survivor Series pour rigoler. La guerre est lancée. On
Ouais,
sent
mais
qu'ils
c'est quand
sortent
même.
vraiment l'artillerie lourde, quoi. Encore une fois, la WWE. Et quand ils font ça, souvent, ils franchissent un peu des barrières qu'ils devraient pas franchir. Et c'est vrai que l'image comme ça, quelqu'un qui est en train de zapper et qui tombe sur cette séquence-là, je me demande ce qu'il peut penser,
Ah
hein,
bah
de toute
c'est des
l'histoire, parce
bâtards
que
les bleus.
c'est voilà, les bâtards, les bleus, c'est vraiment des bâtards.
Des Blue Bastards.
Bon, je pense que ça a eu son efficacité.
Ouais,
Maintenant, c'est
alors j'ai
sûr que
hâte.
c'est moi, c'est pas des images qui m'ont diverti au plus haut point. Mais en même temps, bon, on est dans du catch, hein. On est à la WWE, il faut s'attendre à voir des choses comme ça aussi. Je suppose que
Oui.
ça a dû satisfaire une partie du public.
Peut-être, je suis
Voilà.
curieux de voir SmackDown aussi, et c'est vrai que ça donne plus d'intérêt au Survivor Series qu'un simple petit concours de cours d'école en mode qui sait qui aura le plus de points à la fin, mais ouais,
C'est
du
ça.
coup on va se positionner difficilement en tant que suiveur sur qui on soutient pas,
Ouais,
puis
ça c'est
ouais,
pas
c'est.
faux, mais c'est toujours ce problème de où sont les face, où sont les heels. Bah là, du coup, qui seront les gentils, qui seront les méchants, on ne sait pas. Et ça fonctionne toujours moins bien quand on ne sait pas, quand tout est troublé au niveau des limites, des frontières. Donc
Puis bon,
c'est efficace sur le coup, mais bon.
Oui, puis bon, ça reste. Bon, c'est toujours les moments un peu bizarres de voir Mojo Riley et Zack Ryder, puisqu'ils étaient en train de tabasser les mecs du Shield. On n'est plus du tout. On perd tous les repères de placement sur la carte. Oui, ça avait un côté, c'est le bordel généralisé, et ça, je peux comprendre l'aspect grisant, mais ça. Ouais, non, moi, ça m'a un peu gêné sur. Sur beaucoup d'aspects, sur cette violence gratuite, sur la méchanceté pure et dure, parce que oui, c'est moi je suis fan de catch, mais je suis un gentil quand même.
C'est ça. Ouais, non,
Après
ça fait
avoir,
trop.
mais.
Je sais pas, l'image de
Puis à la
Hooligan
fin,
là.
oui, ça. Puis, déjà, en plus, il lui dit reviens avec ce qui reste de ton roster, mais bon, c'est encore dans un mois les Survivor Series, donc tu devines bien qu'ils vont
Ouais,
quand même
c'est
tous.
ça.
Se
C'est compliqué
retaper, et
aussi.
puis le côté qu'on finisse ce qu'on va commencer, bon, ça fait vraiment. Pour moi, c'était un heel turn, mais ça va pas l'être, c'est ça qui va être bizarre. Je sais pas.
Voilà. Voilà ce qu'il en était. Donc un peu en demi-teinte, hein, voire pas du tout content, hein, pour ce final. Mais au moins les hostilités sont lancées pour Survivor Series. Hein. On se disait l'année dernière que c'était aussi un petit peu poussif. Il y avait l'affrontement assez tôt après la séparation des brands. Là, on voit que les choses sérieuses sont lancées. Et nous, on va aller au mot de la fin. Donc on va nous sortir un top, un flop et une note. Je t'écoute, Raph, dis-nous tout.
Bah moi mon flop, j'attends de voir, mais je vais le mettre à ce final, ouais, qui a été très dérangeant et j'ai pas aimé. Et je pense qu'on peut lancer les Survivor Series d'une autre manière, à voir ce que ça va donner. Mais là, si je prends le show en lui-même, j'ai pas aimé ce final et qui m'a un peu cassé. Après TLC, que j'ai bien aimé, j'étais plutôt dans une ambiance, bon, c'est cool, le cast est redevenu bien, puis ils sont bien rattrapés avec les malades. Et là, ça donne plutôt l'impression que, ouh là là, mais qu'est-ce que je vais voir au show prochain? Qu'est-ce qu'ils vont sortir comme arme? Est-ce qu'il va y avoir des mecs qui vont saigner? Non, ça me fait un peu peur. Donc ça, c'est mon flop. Le top, oh, y avait pas mal de trucs bien dans ce show quand même, que ce soit l'opener, plusieurs matchs, plusieurs interactions. Je vais donner mon top à Alexa Bliss, qui joue toujours divinement bien avec la foule. Je l'aime bien. Bisous, Alexa. J'aurais mis une assez bonne note, assez élevée, sans ce final. Je vais rester sur une impression positive. Il y a eu beaucoup de surprise, c'était un lendemain de pay-per-view, limite comme un lendemain d'un gros pay-per-view, et donc on va dire un petit 3 sur 5 pour moi.
Un 3 sur 5, ok.
Et de ton côté, qu'en penses-tu ?
Alors moi je vais mettre le flop évidemment au traitement de Finn Bálor, et d'ailleurs ça va un peu de pair avec ce final, hein, qui est une vieille rengaine quand même, l'invasion, c'est des choses qu'on a déjà vues et revues, donc c'est un peu dommage, voilà, d'enterrer quelqu'un qui est nouveau et qui a fait le job pour être au top, et de mettre pour remplacer ça, de lancer cette rivalité entre les deux brands, et puis pour le top, je vais mettre l'opener que j'ai trouvé quand même assez, assez exceptionnel, ce match 3 contre 3. J'ai vraiment kiffé du beau catch, et puis je vais mettre la même note que toi, un 3. Un peu perturbant ce final, mais bon, ça reste quand même diablement efficace, et on est IP et même IP, j'ai envie de dire, pour Survivor Series. Voilà, on a fait le tour de la question.
C'est bien ça.
Voilà. Donc, c'est l'heure de l'auto-promo.
Allons-y.
Alors, où c'est qu'on nous retrouve ? Sur YouTube, c'est la chaîne des Cahiers du Catch.
C'est ça.
Catch-up, hein, CDC, Catch-up et Cahiers du Catch. On est sur PodCloud aussi.
Sur PodCloud aussi, exact.
Sur iTunes.
On est même sur iTunes, je confirme.
On a un hashtag sur Twitter, c'est Catch-up CDC. On c'est a ça. Le Facebook, c'est Catch-up CDC aussi.
Oh oui.
Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir par des dons. Hein, donc, Raph, dis-nous comment envoyer des dons.
Ah, ben, envoyer bah, voilà. De l'argent. Ah,
c'est ouais. Ça, exactement.
Voilà, et depuis partout, hein, depuis on est, partout. Nous sommes en train de développer un Catch-up Worldwide. Nous avons un de nos agents spéciaux actuellement sur le continent africain.
C'est ça.
Qui est en train de nous recruter certains chroniqueurs, peut-être.
C'est ça.
Et je crois qu'il recherche Eddie Malou pour en faire un de nos chroniqueurs de la WWE. Mais on verra ce qu'il en fait.
Ouais, on verra. On verra ce qu'il nous ramène dans sa besace. Voilà, on accepte toutes les devises. Voilà, bah, on a fait le tour. Je te remercie beaucoup d'être venu, Raph.
Mais bravo à toi pour ta présentation, Ring.
Merci. Un grand merci à IRM que vous ne voyez pas et qui est en train de réaliser l'émission.
Qui est l'homme tellement de l'ombre qu'on ne le voit pas.
On ne voit même plus, désormais. Merci à Hank et à toute l'équipe qui était sur le chat également. Les gens qui nous écoutaient sur le chat, qui participaient. Merci aux auditeurs. Je prends du temps comme ça parce que je vois qu'IRM, il en a marre.
Et, oui. Et merci à Hank qui est là pour être participant dans le chat discrètement sous un faux nom, bien sûr. Hein, un nom d'emprunt ridicule pour pas qu'on reconnaisse que c'est Hank. Mais il intervient quand même pour remplir un peu le chat.
C'est vrai. Voilà, ben, je vous remercie tous beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao.